êtes sur Radio Orient. Merci de nous rejoindre. Le journal de midi, Nadia Pencher. Au sommaire de cette édition, la reprise des hostilités cette nuit entre Israéliens et Iraniens pour la première fois depuis la trêve conclue il y a 2 mois. La région s'embrase à nouveau malgré les appels du président américain à la retenue. Au Liban, nouvelle attaque de l'armée israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. Bilan 2 tués et 20 blessés, dont des femmes et des enfants. En France, l'affaire Liana. Gérald Darmanin réunit aujourd'hui les procureurs généraux. Objectif passé en revue, les plaintes concernant des enfants victimes. Près de 70 000 dossiers doivent être examinés d'ici au 14 juillet. Bonjour, c'est une première depuis la trêve conclue il y a 2 mois entre Israël et l'Iran. Les deux pays ont repris leurs attaques directes depuis ce dimanche soir. L'Iran a tiré 6 salves de missiles contre Israël en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. François-Xavier de Calonne.
Oui, le cessez-le-feu était déjà bien fragilisé. On peut dire maintenant qu'il a volé en éclats. Depuis ce dimanche, la région s'embrase à nouveau, cela malgré les appels de Donald Trump à la retenue auprès d'Israël. Jérusalem s'est réveillée au son des explosions et des alertes. À Téhéran, une puissante explosion a été entendue dans la matinée. Elle a fait trembler les locaux du ministère des Affaires étrangères. Quelques heures plus tôt, la télévision d'État iranienne avait fait état de déflagrations à Téhéran et dans des villes du nord-ouest et du centre. C'est arrivé au moment où l'armée israélienne annonçait que son aviation avait bombardé des cibles militaires appartenant, selon ses mots, au régime terroriste iranien dans l'ouest et le centre de l'Iran. Une nouvelle escalade qui douche les espoirs de Donald Trump de parvenir rapidement à un accord pour mettre fin à cette guerre. Ces attaques éloignent en effet encore la perspective d'un éventuel accord pour mettre fin au conflit déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines. Le ministre pakistanais de l'Intérieur, pays médiateur dans ce conflit, est lui reparti de Téhéran, faute d'accord. Les points de divergence restent nombreux. Le contrôle du détroit d'Ormuz, essentiel pour le commerce d'hydrocarbures, le programme nucléaire iranien et son stock d'uranium hautement enrichi, ainsi que le sort des avoirs iraniens gelés à l'étranger sous l'effet des sanctions. Autre difficulté, le fait d'inclure ou non le Liban dans un éventuel accord entre Washington et Téhéran. Les États-Unis s'efforcent de dissocier les de front, mais Téhéran exige de son côté un accord global. Enfin, ce bilan, les frappes israéliennes sur le Liban ont fait 3613 morts depuis le début de la guerre le 2 mars. Côté israélien, 29 soldats et un contractuel civil ont, d'après l'armée, été tués au Liban.
Et dans ce contexte tendu, le président américain Donald Trump a exhorté ce lundi l'Iran et Israël à cesser leurs frappes respectives. Il a écrit sur son réseau Truth Social, Donald Trump qui ne cache pas ses désaccords avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et cherche une issue au conflit très impopulaire aux États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a tenu dimanche soir une série d'entretiens avec ses homologues britanniques, France, Turc et Qatari, ainsi qu'avec le médiateur pakistanais, afin d'évoquer les derniers développements dans la région. Au Liban, Israël a mené ce dimanche une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, faisant 2 morts et 20 blessés, dont des femmes et des enfants, selon le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne affirme avoir visé des centres de commandement du Hezbollah en réponse à des tirs de roquettes vers son territoire. Plus tôt dans la journée, deux projectiles tirés depuis le Liban avaient été interceptés par les défenses israéliennes. Le Hezbollah a revendiqué ces attaques, les présentant comme une riposte aux frappes israéliennes dans le sud du Liban. On reste dans la région, mais cette fois dans les territoires palestiniens. Au moins 10 personnes ont été tuées dimanche dans des frappes israéliennes à Gaza, selon les secours palestiniens. Un véhicule a notamment été visé dans l'ouest de Gazaville et un poste de police bombardé près de Khan Younes, dans le sud du territoire. Par ailleurs, l'armée israélienne affirme avoir ouvert une enquête après la mort d'un nourrisson palestinien de 7 mois en Cisjordanie occupée, tandis qu'une journaliste palestinienne de Jérusalem Est a été condamnée à 20 mois de prison. Et puis sachez que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué que l'Union européenne pourrait adopter dans les prochains jours de nouvelles sanctions contre des colons israéliens impliqués dans des violences en Cisjordanie. Dans l'actualité, en plus bref, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a obtenu le soutien des dirigeants britanniques, français et allemands pour son appel à des négociations directes avec Moscou en vue d'un cessez-le-feu. Sur le terrain, au moins 5 personnes ont été tuées dans des frappes russes et un bâtiment du site nucléaire de Tchernobyl a été endommagé. Xi Jinping est arrivé en Corée du Nord pour sa première visite depuis 2019. Le président chinois a salué une amitié sino-nord-coréenne invincible, alors que Pyongyang poursuit son programme nucléaire. Séoul a de son côté réaffirmé son attachement à la dénucléarisation de la péninsule. En Arménie, le parti du Premier ministre Nikol Pachinian remporte largement les élections législatives avec près de 50% des voix. Un résultat qui conforte la politique de rapprochement avec les Occidentaux engagés par Erevan. Au Pakistan, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins 7 morts au Cachemire, administré par Islamabad. Le mouvement à l'origine des protestations réclame des réformes économiques et sociales. Aux Philippines, le bilan du puissant séisme de magnitude 7,8 survenu ce lundi est passé à 15 morts dans le sud du pays. Enfin, à New York, 6 personnes ont été blessées dans une attaque au couteau à la gare Penn Station. Le suspect a été arrêté. En France et dans le sillage de l'affaire Liana, Gérald Darmanin réunit aujourd'hui les procureurs généraux pour passer en revue les plaintes concernant des enfants victimes. Le ministre veut examiner près de 70 000 dossiers d'ici au 14 juillet. Personne ne partira en vacances avant d'avoir la certitude que tous ces enfants soient correctement pris en charge, a-t-il dit chez nos confrères de LCI. On écoute le garde des Sceaux.
D'abord, je vais leur rappeler ce qu'ils savent déjà, puisque ce sont des magistrats extrêmement confirmés, qui sont le chef de leur cour d'appel dans la ligne du parquet, puisqu'ils gèrent les parquetiers. Et que là, c'est quelque chose de très différent des autres affaires dont vous pouvez me parler. C'est que là, il n'y a pas eu une décision d'un juge indépendant qu'on pourrait contester, vous et moi, peut-être en tant que citoyen, dire « c'est pas assez dur, c'est pas assez fort, pourquoi il a été libéré de détention provisoire, pourquoi on n'a pas choisi de le mettre en détention provisoire ?» Là, il n'y a aucun juge qui est rentré dans cette histoire. Là, il s'agit du parquet, c'est-à-dire ceux qui sont sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux directement. Donc c'est très important de voir que là, je vais parler directement à mon bras armé. Vous savez, le chef des procureurs généraux m'a dit, quand je suis arrivé à la chancellerie, « Nous sommes votre bras armé, monsieur le ministre, utilisez-nous. » Et bien donc, dont acte, je vais utiliser. Je vais leur dire que cette affaire est extrêmement grave pour la confiance que les Français nous font et que nous devons être à la hauteur de ce qu'ils attendent. C'est-à-dire non seulement prendre en considération que quelque chose a raté et qu'il faut que nous le disions, savoir se remettre en cause, c'est très important dans la vie, et ne pas mettre la poussière sous le tapis. Mais je sais, pour avoir échangé avec eux aujourd'hui, qu'ils en ont conscience. Leur dire qu'ils ont par ailleurs jusqu'au 14 juillet, c'est-à-dire un mois, pour reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants. L'intégralité des plaintes qui touchent les enfants. Il y en a à peu près 70 000 qui touchent aujourd'hui les enfants, soit pour des viols, soit pour des attouchements sexuels. Donc on se donne un mois. On va, avec le ministre de l'Intérieur, qui, j'en remercie, va donner une dépêche à l'ensemble de ces policiers et de ces gendarmes pour dire qu'ils doivent être sous l'autorité absolue des procureurs de la République. Et j'en remercie Laurent Nunez pour ça. On va prendre, ressort par ressort, toutes les plaintes. Et au 14 juillet, je vais les réunir à nouveau. Et moi, je ne partirai pas en vacances. Et il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux pour qu'on fasse le bilan de sa cour d'appel, qu'on voit ce qui manque. S'il y a des difficultés ici ou là, peut-être des problèmes avec le ministère de l'Intérieur, peut-être des problèmes d'experts parce qu'il manque des psys ou des médecins légistes. Il peut y avoir ce genre de problème. Ce n'est pas manifestement le cas dans l'affaire de Liana, mais je parle en général. Et personne ne partira en vacances, donc je n'aurai pas la certitude que toutes les plaintes pour lesquelles les procureurs de la République ont ouvert une enquête qui concerne les enfants n'a pas été correctement...
Pardon, je vous fais bien préciser parce que l'énormité du chiffre frappe, c'est-à-dire que les 70 000 plaintes actuellement existantes, toutes seront examinées dans cet esprit d'ici le 14 juillet.
Exactement.
Gérald Darmanin, le ministre de la Justice chez nos confrères de LCI. Et dans cette affaire, le principal suspect avait fait l'objet de plusieurs plaintes dans le passé, mais il était en liberté. Isabelle Debré, ancienne vice-présidente du Sénat, présidente de l'Enfant Bleu, insiste sur l'importance de prendre en compte la parole des victimes. Dans 92% des cas, les enfants qui parlent n'obtiennent pas de soutien positif. En clair, ils ne sont soit pas crus, soit pas protégés. Isabelle Debré.
Il faut d'abord écouter l'enfant, il faut l'accompagner, il faut essayer d'aller vite. Vite pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas qu'un enfant ait à répéter tout ça. Il a eu le courage de parler. Il faut l'écouter, il faut l'accompagner. C'est double peine si on ne le croit pas. Encore une fois, très souvent, une victime, enfant ou plus grand, plus âgé, a besoin d'être reconnue comme une victime. Si on ne le, pour qu'il puisse se reconstruire, si on ne l'écoute pas, si on ne l'accompagne pas, c'est double peine, c'est terrible. Et aujourd'hui, vous avez vu le nombre d'enfants qui est victime, 160 000 dans l'année. Enfin, je veux dire, c'est gigantesque. Il faut absolument arrêter cette hémorragie, c'est terrible.
Que faut-il revoir dans la manière de traiter ces dossiers ? En clair, comment respecter scrupuleusement le droit français tout en le rendant compatible avec la protection effective des enfants qui dénoncent les violences ? Car il y a bien sûr le principe de présomption d'innocence qui est très important, mais qui parallèlement, la manière dont cela est traité, cela peut créer une forme de système d'impunité des agresseurs.
Tout à fait. Je pense que lorsqu'un enfant parle, d'abord, il faut le croire. Au départ, il faut faire une enquête rapidement. Il faut convoquer la personne qui, si elle est identifiée, si la personne est identifiée, il faut la convoquer. Il faut absolument lui dire qu'il est sous les feux des projecteurs. Je prends l'exemple de ce drame. Il y avait une petite fille qui avait été violée, qui avait parlé, la maman avait porté plainte, et au bout de 9 mois, il n'y avait rien eu. L'agresseur présumé, enfin il était identifié par la petite victime, n'a même pas été entendu. Ça n'est pas possible dans notre pays. Alors, il y a un manque de personnel, ça c'est certain. Je le vois par exemple, si vous regardez le nombre de procureurs, nous avons 4 fois moins en France de procureurs que la moyenne européenne. Nous avons 2 fois moins de juges que la moyenne européenne. Donc il y a sûrement un problème de personnel. Il y a certainement aussi un problème de compétence, c'est-à-dire que les personnes ne sont peut-être pas formées suffisamment, entre autres au recueil de l'enfant. Mais encore une fois, il y a des choses qui ont été faites, mais il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
Isabelle Debré, ancienne vice-présidente du Sénat, présidente de l'Enfant Bleu, invitée de François-Xavier de Calonne dans Grand Angle ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mohamed El-Bezri à la réalisation. Prochain rendez-vous de l'information, le journal en langue arabe à 12h30. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.